Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Jean Saramea. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, on va parler des 60 ans de Serre-Ponçon.
60 ans de Serre-Ponçon a vu se terminer la mise en eau de cet immense lac, puisque c'est aussi vaste que le lac d'Annecy, et c'est un des plus grands lacs artificiels de France, même s'il y a des lacs importants sur la partie supérieure des bassins versants de la Seine et surtout de la Marne pour éviter des crues catastrophiques à Paris. Alors, je vais commencer par un petit souvenir personnel. De toute ma scolarité, primaire, collège, lycée, je n'ai effectué qu'une seule sortie avec les camarades et les enseignants. Une seule. C'était donc début juillet 1961 et une commune de 800 habitants dans le département du Var avait payé une journée de déplacement, c'est gratuit pour les enfants, à tous les enfants des écoles primaires du village. Et c'était Serre-Ponçon. Donc ça prenait toute la journée, évidemment. Et donc, on avait été sur le belvédère, on avait écouté les explications, et à 9 ans et demi, je peux vous dire que ça marque un jeune qui ne savait peut-être pas encore qu'il deviendrait géographe. Et puis, on avait pique-niqué au petit lac du Lourvet, à l'entrée de la vallée de l'Ubaye, sous un orage carabiné. Et puis, on avait vu les demoiselles coiffées à Grand-Savine, et puis le nouveau village de Savine, qui était évidemment tout récent, le nouveau pont qui franchit donc la partie supérieure du lac, et puis on était revenu par Georges Tallard et la longue vallée de la Durance, parce qu'il n'y avait pas l'autoroute, évidemment, en 1961. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand lac artificiel de Serre-Ponçon? C'est EDF, comme maître d'œuvre, qui, avec ses excellents ingénieurs des ponts et chaussées, avait été chargé en 1955. Le projet avait été signé par le ministre de l'Intérieur de 1955, qui s'appelait François Mitterrand, et d'organiser un barrage, bien sûr, mais il y avait 3 ou 4 projets d'aménagement extrêmement complexes et intéressants. Donc le principe était de trouver un resserrement de la vallée de la Durance et le choix s'est porté sur ce resserrement de plus de 150 mètres de profondeur juste après le confluent de l'Ubaye et de la Durance. Le problème, c'est que la montagne et les versants, la montagne est très instable, plutôt friable et surtout que les alluvions, c'est-à-dire les sables et les graviers qu'il y a au fond de la vallée, font plus de 100 mètres d'épaisseur. Donc, impossible de construire une digue en béton. Donc, on a pris modèle sur les barrages poids qui existaient déjà dans la vallée du Missouri aux États-Unis. Et ce fut un énorme chantier de 1955 à 1960. Au maximum, il y avait plus de 2000 ouvriers. Il a fallu dévier la Durance. Il a fallu injecter béton jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur dans les sédiments pour les rendre imperméables et que l'assise du barrage soit solide. Et on a décidé de barrer la vallée par une digue en terre, donc ce qu'on appelle un barrage poids. Une digue en terre compactée, rendue étanche, de 120 mètres de hauteur et surtout de 600 mètres d'épaisseur à la base. C'est considérable. Alors, il fallait noyer le fond de vallée, bien sûr, où il y avait des champs, mais où il y avait 2 villages, le village de Savine et le village d'Ubaye, et une usine textile. Et comme quelques années plus tôt, le barrage de Tignes, en Savoie, au pied du col de l'Iseran, et tout près de la station de Val d'Isère, avait déchaîné les passions en France, parce que c'était le début de la télévision, et les Français avaient vécu la destruction et l'ennoiement du village de Tignes avec les gens qui devaient être relogés, transportés, les morts du cimetière, etc. L'opinion française avait été bouleversée par l'affaire de Tignes. Alors là, EDF va prendre beaucoup de précautions. Il va y avoir une propagande positive, disons. les gens vont être largement indemnisés et notamment le nouveau village de Salines, tel qu'on le voit maintenant, hein, juste au-dessus du nouveau pont, va être magnifique et puis on va présenter avec luxe de reportage documentaire les quatre buts de cet énorme ouvrage. On verra après comment il a été financé, parce que ce n'était pas une petite affaire. Alors, le premier but, c'était de produire beaucoup d'hydroélectricité. On était, 10 ans après la fin de la guerre, la France se modernisait, s'industrialisait, il fallait énormément d'électricité, il n'y avait pas encore l'atome, on était 20 ans avant, et dans le sud-est, la France manquait cruellement d'électricité. Et là, les 700 millions de kilowattheures, production maximum annuelle, étaient d'autant plus bienvenus que ça permettait un approvisionnement sécurisé d'électricité dans tout le sud-est de la France, mais surtout que la production était maximum en été, à la différence des autres barrages ailleurs en France. Parce que le régime de fluvial de la Durance, c'est un régime niveau glaciaire, c'est-à-dire que le débit maximum et le remplissage donc maximum du lac, c'est en fin de printemps et pendant l'été, avec la fonte des neiges d'abord, puis la fonte des névés, et puis la fonte des glaciers. Donc c'est justement pendant la sécheresse méditerranéenne qu'il y a une réserve d'eau maximum, ce qui est extrêmement positif. Deuxième grand but, c'est de régulariser la Durance. La Durance, depuis des siècles, avait un régime très fantasque, avec de longs étiages où on ne pouvait plus irriguer jusqu'à Avignon, et des crues catastrophiques lorsqu'il y avait à la fois la fonte des neiges et de fortes pluies, plutôt au début du printemps, qui étaient terribles dans l'ensemble de la vallée, et surtout dans la partie inférieure. Avec de gros dégâts à chaque fois, les ponts emportés, les vergers noyés, etc. Donc là, évidemment, l'énorme lac et le barrage régularisaient, j'allais dire définitivement, le début de la Durance qui était désormais maîtrisé par l'homme. Donc plus de sécheresse, ni de crues dévastatrices, tout au moins dans le fond de la vallée. Troisième but, troisième grande utilité, les 15 usines hydroélectriques en aval. 15 barrages-usines en escalier jusque vers Avignon, puis surtout jusque dans l'étang de Berre, puisque la dernière grande production d'hydroélectricité, le train passe dessous, c'est une belle usine, puis ensuite on voit l'eau qui arrive dans l'étang de Berre. Donc 250 km de canalisation avec donc des qui produisent elles aussi pas mal d'hydroélectricité, et surtout l'irrigation. L'irrigation qui va permettre de transformer toute la vallée de la Durance, de Tallard jusqu'à Avignon, en un magnifique paysage de vergers, de légumes également, mais surtout de vergers, les pommes, les poires, les pêches, etc. Une des grandes zones moderne productrice de fruits pour la France avec une belle exportation dans toute l'Europe et jusqu'en Russie. Et puis enfin, quatrième, même si ce n'est pas le but fondamental, mais quatrième utilité, le tourisme. Le tourisme d'été, bien sûr, avec toutes les activités nautiques modernes qui sont de plus en plus étoffées en fonction de l'imagination humaine. Pas seulement les baignades et les promenades en bateau-bouche, mais sur les 28 km carrés, il y a des passages très jolis, des calanques avec l'eau bleue, le ciel bleu, les roches, et puis bien sûr les visites. Alors les visites de l'usine, c'est une usine enterrée hein, sous la digue. Les visites, il faut prendre rendez-vous, mais ce n'est pas possible. En général, on se contente du belvédère avec, au-dessus du barrage, les explications les plus pertinentes. On peut y monter soit depuis Tallard, soit depuis Chorges, par la route. Donc, vraiment une des grandes opérations d'aménagement du territoire du sud-est de la France. Alors, comment financer? C'est que ça a coûté 135 milliards d'anciens francs de l'époque. Ce serait à peu près 20 milliards d'euros de maintenant. Hein. rapport, on est en 1955 à 60, les crédits américains du plan Marshall sont terminés depuis déjà 5 ans, et la France est en train de se sortir difficilement des 8 années de guerre d'Indochine, très coûteuse et très lointaine, et la France est en plein dans les 8 années de guerre d'Algérie. Très coûteuse elle aussi, parce qu'à partir de 56, on y envoie le contingent. Donc, comment financer, parce qu'il y a d'autres barrages en construction en France, dans le Massif central, dans les Pyrénées et ailleurs dans les Alpes. Et là, EDF a une idée géniale. C'est de lancer des bons, c'est-à-dire des emprunts, auprès de la population française. Donc, la France ne s'endettait pas à l'étranger. Et ce qui achetait ces bons EDF pour Serpenson avait la garantie que tant que le bon courait, leur facture d'électricité serait diminuée. Et ça a marché. Ça a très bien marché. Pour l'anecdote, il n'a jamais été inauguré. Au moins, le président de la République, général de Gaulle, ne s'est pas déplacé, sans doute parce qu'en 60-61, il était très accaparé par le problème algérien. Mais de Gaulle n'est pas venu, donc il n'y a pas eu inauguration par le président de la République. Donc, en conclusion, c'est quelque chose de magnifique. C'est surtout maintenant, avec le réchauffement climatique et les inquiétudes vis-à-vis du développement durable, non seulement il y a les quatre utilités, mais ça n'émet évidemment pas de gaz à effet de serre, ce n'est pas polluant, c'est une production électrique beaucoup plus régulière que le solaire et l'éolien, qui sont beaucoup plus temporaires, même si c'est indispensable. Et puis, ça a maintenu et ça continue à maintenir beaucoup de jeunes au pays. Donc, en termes de modernité, même si ça a 60 ans, la mise en eau, et en termes de développement durable, un géographe doit convenir que c'est quelque chose de toujours magnifique.
Merci beaucoup, Jean.